Exceptionnellement, je vais prêcher dans la Darby, parce que la traduction de la Darby est bien meilleure que celle de la Colombe, habituellement. En tout cas pour ce psaume, donc ce matin, ce sera dans la Darby. Mais je pense que la substance ne sera pas difficile à saisir. J'ai intitulé cette prédication « Chantez les louanges de Dieu, même au sein de la détresse ». Chantez les louanges de Dieu, même au sein de la détresse. Lisons ensemble les trois premiers versets de David. Je te célébrerai de tout mon cœur. Je chanterai tes louanges devant les dieux. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Au jour que j'ai crié, tu m'as répondu, tu as augmenté la force de mon âme. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Le chrétien et la louange, ça rime. Un chrétien, c'est un homme, une femme qui loue, qui fait l'éloge, c'est-à-dire hein, la louange, c'est faire l'éloge, c'est dire les qualités, les perfections de quelque chose ou de quelqu'un. Et le chrétien en particulier, vous le savez, vous qui êtes chrétien ici ce matin, loue les perfections de Dieu lui-même. On pourrait dire que comme pour l'oiseau, le fait de voler est une évidence, pour le chrétien, le fait d'adorer Dieu va de soi. Je ne dis pas que c'est toujours évident, je ne dis pas que c'est toujours simple, mais c'est dans notre nature nouvelle. Nous avons été recréés en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et parmi ces bonnes œuvres, il y a le culte que nous rendons à Dieu. Et chanter les louanges de Dieu, pour le chrétien, devrait être aussi une possibilité ou une évidence, j'ose le dire, même au sein de la détresse, comme nous allons le voir. Tout être humain a connu ou connaîtra une détresse sous une forme ou sous une autre. C'est le lot de notre humanité déchue, c'est une réalité que nous ne pouvons pas contourner. Dans ce monde, nous allons avoir des tribulations. Et les chrétiens en particulier n'y échappent pas. Et je dirais même plus, Dieu leur prépare toutes sortes, il nous prépare, il vous prépare toutes sortes d'épreuves, précisément parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes disciples de l'homme habitué à la souffrance. Disciples de Jésus-Christ qui nous a montré le chemin vers la gloire, comme l'apôtre Pierre en parle dans sa première épître au chapitre 1. Un chemin vers la gloire qui passe d'abord par des épreuves, des souffrances qui nous raffinent, qui nous purifient, qui nous fortifient dans notre foi. C'est une des pédagogies de Dieu, ce n'est pas la seule, mais il emploie effectivement l'épreuve pour cela. Je crois que c'est Gilles qui rappelait il y a quelques semaines, si ce n'est la semaine dernière, la parole de l'apôtre Paul, qui enseigne que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais comment est-ce que le chrétien traverse ces tribulations? Comment est-ce qu'il entre dans le royaume de Dieu au travers de ces nombreuses tribulations? Est-ce uniquement en gémissant? Je dis uniquement, c'est-à-dire que je pense que gémir fait partie de la vie chrétienne. Mais est-ce uniquement en gémissant? Non, je crois que la Bible nous enseigne que même dans la détresse, il y a de la place pour louer et célébrer Dieu. Cependant, c'est un défi, la tribulation ou la détresse, et là je parle des épreuves qui s'étendent notamment sur le temps, hein, qui s'allongent, c'est un défi parce que il y a plusieurs effets, il y a plusieurs conséquences au fait d'être dans la détresse. Des conséquences qui ont tendance à rendre difficile, justement, la louange. On ne doit pas se leurrer. Hein. Lorsqu'on parle de chanter les louanges de Dieu, même au sein de la détresse, ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait qualifier familièrement de fastoche. Ça demande de nous un certain nombre de réalisations, nous devons comprendre un certain nombre de mécanismes de la souffrance et aussi avoir les bons réflexes, les bons, les bons appuis, les bons fondements pour que lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous puissions quand même rendre gloire à Dieu. Et ce matin, nous avons deux points que je voudrais voir avec vous. Le premier, c'est les effets de la détresse. Nous allons en voir trois. Alors, je ne prétends pas que ce sont les seuls effets, mais il me semble que ce sont trois des effets notables de la détresse, intéressants pour nous en lien avec cette question de chanter les louanges de Dieu, même dans la difficulté. Et le deuxième point, nous verrons comment est-ce que David, dans ce psaume, nous donne des clés précieuses que nous pouvons réemployer lorsque nous passons nous-mêmes dans des situations, dans des saisons difficiles, des clés qui nous permettent tout de même de célébrer David. Premier point donc, les effets de la détresse. Dans ce psaume, c'est une évidence que David passe par des difficultés. Si vous lisez la suite, notamment le verset 7, « Si je marche au milieu de la détresse, tu me feras vivre, tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis, et ta droite me sauvera. » C'est une réalité concrète pour David. Et vous savez, vous qui lisez la Bible, que si quelqu'un a connu des épreuves et des difficultés, David peut tout à fait lever la main et être un candidat, n'est-ce pas, pour correspondre à la description d'un homme habitué à la souffrance. Pourchassé maintes fois par Saül, par son fils, par les rois étrangers, errant de lieu en lieu, de caverne en caverne, calomnié, mal compris, et bien de terribles difficultés dans sa famille qu'on pourrait énumérer presque sans fin. Et une des détresses, ou en tout cas un des effets de la détresse, que ce soit pour la vie de David ou pour les nôtres, c'est, premièrement, que la détresse affaiblit la force de notre volonté. La faiblesse affaiblit la force de notre volonté. Le corps humain fonctionne bien souvent d'une manière qui nous apprend comment aussi l'esprit humain fonctionne, la pensée fonctionne. Pensez à quelqu'un qui fait du sport. C'est un professionnel qui s'est entraîné pendant des semaines, des mois et même peut-être des années pour la compétition à laquelle il participe. Le voilà en finale et sa volonté est claire. Sa volonté, c'est pas juste de franchir la ligne un jour. C'est de franchir la ligne le premier. Et le voilà lancé dans la course et soudainement, un claquage. Un claquage et malgré sa première volonté, volonté qu'il a entraînée, volonté qu'il a fortifiée, n'est-ce pas, par des privations, de la discipline, des exercices, voilà qu'un nouveau désir qui vient d'émerger, une nouvelle volonté qui vient d'apparaître, qui est celle de s'arrêter. Parce que la douleur est si intense que finir la course devient une volonté, un désir concurrencé par un besoin pressant. Et de la même manière donc que notre corps ne peut pas supporter facilement la douleur, notre volonté non plus ne supporte pas facilement la détresse et la tribulation. Notre volonté notamment de rendre un culte à Dieu, d'adorer Dieu coûte que coûte, de rester fidèle à Dieu. Et bien que Dieu ne change pas et qu'il soit toujours aussi digne, toujours aussi adorable, il vient des moments où notre volonté ne correspond plus tout à fait à cette grande dignité de Dieu. Et certes, Dieu a compassion de nos faiblesses, c'est une évidence, Dieu est le Dieu des compassions. Pourtant, il ne regarde pas notre faiblesse comme une justification de ne pas accomplir nos travaux, nos devoirs envers lui. Dans la force, dans la faiblesse, dans la richesse, dans la pauvreté, notre devoir, qui est aussi notre privilège, demeure. Louer Dieu. Notre modèle, après tout, n'est-il pas celui qui a accompli sa tâche jusqu'au bout, chargé d'une croix et chargé du poids et du fardeau de nos péchés? Et que fait-il une fois sur la croix? N'a-t-il pas eu sur les lèvres les paroles d'un chant, les premiers mots d'un psaume? Et souvent, je pense, alors c'est une interprétation parmi les deux principales, mais je pense que probablement on ne comprend pas de la bonne manière ces paroles du Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois qu'il y a effectivement l'expression d'une grande souffrance, mais la projection aussi d'une joie à venir. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. À cause de la joie qui lui était promise, il a méprisé la croix. Il a embrassé la souffrance, ayant les yeux fixés, n'est-ce pas, sur l'après. Et je pense, c'est une de mes convictions, et plusieurs commentateurs vont dans ce sens-là, lorsque Jésus prononce ces paroles, les premières du psaume 22, c'est pour diriger aussi ceux qui sont en train de lire, ceux qui sont en train de l'écouter, vers la suite de ce psaume qui termine dans une grande réjouissance, une louange, parce que Dieu a répondu. Salomon le dit dans ses proverbes, « Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. » Et je crois donc qu'il est bon pour nous de prendre la mesure de l'importance de fortifier, de rendre plus robuste notre capacité à adorer Dieu, même dans l'adversité. Deuxième effet donc de la détresse, de l'épreuve, nous avons vu que la détresse sape, affaiblit notre volonté de rendre un culte à Dieu, un peu comme la jambe blessée affaiblit notre volonté d'achever la course. Deuxième effet, c'est que la détresse brouille nos pensées. La détresse brouille notre esprit, notre faculté de raisonner. Nous avons tous passé par des temps de détresse, avec des intensités différentes, avec des durées différentes. Mais tous, certainement, nous avons connu des épreuves, si nous avons vécu quelques années au moins dans ce monde. Et probablement, si on vous demandait comment est-ce que vous décririez ce temps de détresse, une des descriptions qui reviendrait, qui est classique et qui est juste, c'est de dire c'était le désert. C'était un temps de désert. Et c'est une manière, je pense, de parler souvent de nos émotions qui, à ce moment-là, étaient vraiment comparables à celui qui, dans un désert, est assoiffé comme la biche, n'est-ce pas, altérée dont les psaumes nous parlent, qui souffre et ne voit pas l'eau qui pourrait la désaltérer. Je pense néanmoins qu'il y a une autre description qui conviendrait aussi, mais là plus par rapport à nos pensées, moins par rapport à nos émotions, mais comment ça se passe dans nos réflexions dans la détresse. C'est l'expression de la traversée d'un brouillard épais, n'est-ce pas ? Lorsque l'épreuve est là, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes incompris, lorsqu'une situation dure, de souffrance peut-être, de maladie, lorsque certains chrétiens sont emprisonnés, malgré le fait qu'ils sont dans l'œuvre du Seigneur, oui, nous pouvons nous poser la question, mais comment cela se fait-il? Et nos pensées commencent à s'embrouiller. Nous sommes donc comme dans ce brouillard épais où les formes sont confuses. Notre vision ne permet plus de nous projeter au loin. Et même ce qui est proche de nous semble avoir une silhouette un peu différente. Pour le dire plus clairement, la réalité, nous ne la voyons plus de manière distincte. Nous ne comprenons plus bien la volonté de Dieu, le sens de nos souffrances. Quelle est la vertu, l'utilité ? Dans la détresse, nous ne voyons plus clairement même la gloire de Dieu. Il peut arriver que les perfections de Dieu brillent avec beaucoup moins d'éclat. Alors, même si elles sont là, ces perfections de Dieu, et même si nous le savons, nous ne l'avons pas oublié, nous nous focalisons plus à l'horizon, alors que c'est beaucoup moins clair à l'horizon, parce que nous sommes à la recherche désespérée d'une solution. Et la détresse donc peut nous faire penser que ce n'est plus une priorité de servir Dieu et de chanter ses louanges, mais que la priorité, quelque part, c'est de trouver la sortie de cette détresse du moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la sortie de cette détresse, mais la détresse inverse l'ordre des priorités. Troisième et dernier effet que j'aimerais suggérer, effet de la détresse sur nous, en lien avec notre relation à Dieu et le culte devant Dieu, c'est que la détresse, souvent, assombrit la galerie de nos souvenirs. La détresse, souvent, assombrit la galerie de nos souvenirs. C'est un peu comme l'éclipse du soleil, n'est-ce pas ? L'éclipse de soleil qui va jeter une ombre épaisse sur la création admirable de Dieu. De la même manière, la détresse vient avec ses ténèbres, ses questions non résolues, ses interrogations pressantes desquelles on ne trouve pas de réponse. Et la détresse jette une ombre épaisse sur la galerie de nos souvenirs des bénédictions de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas que nous avons oublié que Dieu nous a bénis, ce n'est pas que nous ne sommes plus capables de compter les bienfaits de Dieu, mais en fait, nous sommes dans la détresse, c'est compréhensible, tellement focalisés sur les bienfaits à venir que nous attendons, notamment la délivrance de la souffrance, la délivrance de la difficulté, que nous sommes plus occupés du coup à compter et à attendre les futurs bienfaits de Dieu. Et nous ne prenons plus le temps de compter les bienfaits d'hier, d'avant-hier, de l'année dernière. Nous sommes tentés alors à ce moment-là, et le risque est grand, d'imiter l'erreur de Job. Vous connaissez bien Job, qui à un moment donné a voulu contester avec Dieu, plutôt que de chanter, comme il l'avait d'ailleurs fait au début, de célébrer Dieu, de rendre gloire à Dieu, et de dire, chapitre 2, verset 10, « Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu. » Lorsqu'il répond à son épouse qui lui dit « Maudit Dieu et meurt !» Il lui dit « Mais tu parles comme une... » Il dit « Comme », on voit ici peut-être la précaution et la, je dirais, la délicatesse de Job. Il ne lui dit pas « Tu es une folle », il dit « Tu parles comme une folle ». Et il ajoute, « Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal. » Vous pourriez objecter, et je comprends, qu'il est parfois impossible de surmonter la détresse au point de pouvoir chanter. Eh bien, c'est vrai que parfois il est impossible de surmonter la détresse aussi rapidement qu'elle nous a saisis dans ses filets. Ça demande souvent plus de temps d'être bien disposé dans la détresse que d'être incommodé, que d'être abattu par la détresse. Mais, frères et sœurs, nous ne sommes pas des rationalistes, c'est-à-dire de ceux qui font passer la raison humaine au-dessus de ce que les Écritures enseignent. Nous ne sommes pas de ceux qui font passer l'expérience et le ressenti de nos vécus au-dessus de la parole de Dieu. Cette même parole qui nous dit, 2 Corinthiens 2, 14, que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Alors la question, effectivement, c'est quel triomphe ? Mais voilà ce que nous dit la parole. Voilà un autre texte encore. Si vous lisez le psaume 34, nous ne le lirons pas maintenant, mais posons-nous la question, est-ce que le psalmiste exagère lorsqu'il répète verset après verset « Toujours, toute détresse, en tout temps, tout le temps » en parlant des délivrances de Dieu. Un verset encore, avant de continuer, un passage que nous connaissons, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, où ici l'apôtre Paul nous dit que aucune épreuve ou tentation, c'est le même mot en grec, hein, une seule pièce qui a deux faces, ça peut être ou bien tentation ou bien épreuve, en fonction de comment on réagit à la difficulté. Il nous dit qu'aucune épreuve, aucune tentation ne nous est survenue qui soit surhumaine. Dieu est fidèle, ajoute-t-il, et avec la tentation, donc il ne permettra jamais donc, que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, l'épreuve, il préparera aussi l'issue afin que vous puissiez, écoutez bien la fin, le supporter. Nous n'allons pas aller beaucoup plus loin dans cette considération, mais juste, je laisse à votre pensée ceci. Peut-être que bien souvent, l'issue dans la détresse est beaucoup plus proche qu'on ne le réalise, mais simplement nous ne regardons pas au bon endroit. Le texte dit « afin que vous puissiez le supporter ». Autrement dit, Dieu bien souvent nous fait sortir des épreuves, comment ? En nous laissant dans l'épreuve, mais en augmentant notre force par son esprit, par sa grâce, afin que nous supportions l'épreuve. Et parfois, nous ne regardons donc pas à cette force supplémentaire qu'il peut nous donner, mais nous cherchons plutôt une issue de secours pour éviter de demeurer dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire que Dieu jamais ne met un terme à nos épreuves, mais peut-être nous devrions réaliser que la pédagogie de Dieu est plus variée que ce que nous espérerions peut-être parfois. Gloire soit rendue à Dieu, parce que dans sa parole, il nous donne donc les réponses à cette question. Comment chanter même dans les temps de détresse? Et nous allons maintenant nous intéresser à ce que David nous donne comme clé. Nous avons vu que la détresse a pour effet de saper, d'affaiblir notre volonté, notre capacité à demeurer ferme dans une résolution, une décision, que la détresse a pour effet aussi de brouiller nos pensées, notre réflexion, et nous confondons du coup les priorités. Louer Dieu, chanter la louange de Dieu n'est plus une priorité, et la priorité absolue devient alors l'issue de la difficulté. Et enfin, nous avons vu, troisièmement, que la détresse assombrit, la galerie des souvenirs des bienfaits de Dieu. Deuxième et dernier point, ce qu'il vous faut, frères et sœurs, pour chanter même dans les temps de détresse. Relevons trois choses de ces trois premiers versets. Une résolution répétée. Deuxième chose, une compréhension équilibrée. Troisième chose, une appréciation renouvelée. D'abord, une résolution répétée. Il y a des décisions, vous le savez, dans la vie qui n'ont pas besoin d'être consciemment répétées. Des choses que l'on décide de faire, mais qui ne sont des actes uniques. Pensons dans la vie chrétienne, à quoi ? Au baptême, par exemple. Le baptême, un seul baptême, une fois pour toutes. Lorsque je prends cette résolution d'être baptisé, je n'ai pas besoin de renouveler, année après année ou jour après jour, la résolution d'être baptisé, même si je dois vivre en conséquence, jour après jour, de ce baptême. Il y a d'autres décisions qui n'ont pas non plus besoin d'être consciemment répétées, parce que ce sont des décisions qui ne souffrent pas d'opposition. Il n'y a rien en face qui rende difficile le fait de rester ferme dans cette résolution. En revanche, il en est tout à fait autre chose du culte que nous rendons à Dieu. Vous le savez, la Bible en parle, on parle là d'un combat spirituel. Et notre chair, notre monde et le diable se liguent constamment ensemble pour corrompre et même si possible interrompre le service du chrétien qui sert son Dieu. Pour mettre des bâtons dans les roues, on pourrait dire, au culte que nous voudrions rendre à Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher des explications compliquées lorsque, dans la détresse, nous ne voulons pas ou, en tout cas, avons du mal à rendre un culte à Dieu. Certainement, notre vieille nature n'y est pas pour rien. Le diable y contribue et le monde ne nous aidera certainement pas. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne ça ? Eh bien, je mentionne ça parce que si vous regardez avec moi le psaume, verset 1, David s'exprime comme pour dire sa résolution, sa détermination. « Je te célébrerai de tout mon cœur. Je chanterai tes louanges devant les dieux. » Verset 2, « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté. Je célébrerai ton nom. » Alors certaines traductions le rendent par du présent. En hébreu, c'est un temps en fait qui peut se traduire soit par du présent continu ou par du futur. Donc c'est correct, l'un ou l'autre. C'est comme si David, en fait, est en train de dire « Je le ferai encore et encore. Je me résous et je me détermine à te louer et à te célébrer. » Coûte que coûte, on pourrait dire. Et ce n'est pas étonnant que David prenne cette résolution, lui qui est le roi selon le cœur de Dieu. C'est le désir de Dieu qu'effectivement, même dans la détresse, nous puissions nous réjouir en Dieu. On l'a dit tout à l'heure, David a connu bien des difficultés, et ce sont des difficultés auxquelles certainement ses descendants, les exilés à Babylone, pouvaient tout à fait compatir. Si vous connaissez les psaumes, nous sommes dans le psaume 138, et le psaume qui est juste avant, le psaume 137, est le psaume des exilés. Lisons ensemble les quatre premiers versets de ce psaume. « Auprès des fleuves de Babylone, là, nous nous sommes assis, et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au saule, qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes. Car là, à Babylone, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie. Chantez-nous un cantique de Sion !» C'est ce qu'il disait, donc c'est bourreau. Et voilà la question du verset 4. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Comment dans la détresse, autrement dit, comment dans cette épreuve manifeste de notre décadence, du déplaisir de Dieu, de notre souffrance, nous sommes exilés hors de la terre d'Israël, comment là nous pourrions chanter un cantique à notre Dieu? Et plusieurs commentateurs vont dans ce sens, et je suis assez convaincu de ce qu'ils proposent. Bien que le psaume 138 ait été écrit avant le psaume 137, psaume 137, psaume des exilés, psaume 138 de David, leur ancêtre, eh bien, ils pensent qu'il a été placé à cet endroit, juste après, parce que, pour ainsi dire, l'expérience de David répond à cette question. Comment pouvons-nous chanter dans la détresse? Comment pouvons-nous chanter quand autour de nous, tout est sombre, tout est noir? Et au verset 1, David nous montre que lui, bien qu'ayant des ennemis, verset 7, bien qu'ayant parfois la nécessité de crier à Dieu, verset 3, il prend la résolution de célébrer les louanges de Dieu, de faire l'éloge de Dieu, de rappeler les attributs glorieux de Dieu, que même lorsque tout est sombre, Dieu reste tout-puissant. Même lorsque tout est difficile, Dieu reste parfait, saint, juste, compatissant, miséricordieux. Or, lorsque l'épreuve est une fournaise ardente, Dieu est le même, toujours adorable, toujours digne de notre attention et de notre affection. Première clé donc ici, il nous faut prendre la résolution et répéter cette résolution, cette décision de louer Dieu, coûte que coûte. Autrement dit, c'est un acte de notre volonté. Nous ne sommes pas passifs ici, mais nous sommes actifs. C'est une décision consciente que nous devons renouveler en nous. Notre monde nous encourage beaucoup au sentimentalisme, c'est-à-dire à considérer que nos sentiments sont la locomotive et notre volonté derrière les wagons. Mais la réalité biblique est tout à fait inversée. Notre volonté, notre intelligence renouvelée par la grâce de Dieu est la locomotive Et ensuite, les wagons c'est donc nos sentiments qui doivent suivre. Ça arrive, ça fait partie des défis. Il y a du bruit quand on prêche, c'est normal.
Mais il y a aussi des portes qui se ferment.
Oui. Ok, je crois que j'ai été plus perturbé que vous en fait. Donc, je vais. Reprenons donc et terminons ce premier point. Une résolution répétée. Frères et sœurs, ne nous laissons pas malmener par nos sentiments. Prenons-les en compte. Ils existent. Dieu nous a créés avec des sentiments. Ne soyons pas, ne diabolisons pas les sentiments, mais mettons-les à leur place. Ils sont les wagons. La locomotive, c'est la volonté révélée de Dieu qui transforme notre volonté et nous conduit. Deuxième clé pour chanter les louanges de Dieu, même au sein de la détresse. Deuxième clé que David nous livre, c'est une compréhension équilibrée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors peut-être juste quelques remarques sur la poésie hébraïque. Vous le savez pour certains, peut-être pas tous, mais vous l'avez constaté pour ceux qui lisent les proverbes et les psaumes. Il y a dans la poésie hébraïque cette règle, cette notion du parallélisme. C'est-à-dire qu'une déclaration est suivie d'une autre déclaration mise en parallèle. Ou bien parce qu'elle elle est synonyme, elle redit la même chose d'une autre manière, ou bien parce qu'elle explique, ou bien parce qu'elle contraste, notamment dans les proverbes, n'est-ce pas ? Celui qui fait ceci aura cela, l'autre qui fait ceci, il lui arrivera ceci. J'aurais, maintenant que j'y pense, dû prendre un exemple précis, mais nous en avons un ici dans le texte. Des exemples dans les proverbes, vous en avez de nombreux, mais regardez. Je te célébrerai de tout mon cœur, parallèle, je chanterai tes louanges devant les dieux. Alors ici, ce n'est pas un contraste, mais on pourrait dire c'est synonyme ou voire même une explication. Comment est-ce que je te célébrerai ? Eh bien, en chantant tes louanges. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie de chacune de ces affirmations. De tout mon cœur, puis louange devant les dieux. Où est-ce que David veut en venir et qu'est-ce que ça peut nous apprendre ? Quel est le lien entre ces deux précisions que David ajoute. D'abord, de tout mon cœur, signifie certainement le fait que David affirme sa décision de louer Dieu sans partage, d'un cœur entier, sans aucune réserve, réserve que pourrait peut-être occasionner la crainte des ennemis, la peur, la détresse, les circonstances. Non, je ne mettrai pas de frein à te célébrer. Je te célébrerai de tout mon cœur. Pleinement, avec zèle. Et je crois que la deuxième partie nous aide à comprendre pourquoi, devant les dieux. Alors, vous le savez peut-être, mais Dieu au pluriel, dans l'Ancien Testament en particulier, peut désigner parfois les puissants, les chefs, ceux qui exercent l'autorité dans le peuple d'Israël. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus dit dans Jean 10, « Pourquoi est-ce que vous me reprochez d'appeler Dieu mon Père et de dire que je suis son Fils ?» Vous vous offusquez de cette proximité que je réclame avec Dieu, de cette intimité. Pourtant, la loi vous appelle Dieu. Il fait référence au psaume 82 où il est dit « J'ai dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. » C'est-à-dire, j'ai dit que vous étiez les autorités de ce peuple, les représentants de ce peuple, mais vous mourrez. Parce que à cette époque, ils avaient été infidèles. Donc, c'est un des sens possibles. Mais il me semble ici que ça fait probablement plus référence aux, je dirais, aux idoles, aux faux dieux. Alors, dans un sens, il peut y avoir un lien entre les deux, parce que nous savons souvent que les représentants de l'autorité, à l'époque même en Israël, pouvaient être aussi un canal vers les fausses divinités. Ils étaient plus des représentants des idoles, bien souvent, que du vrai Dieu. Donc, il n'y a pas forcément à opposer les deux. Alors, quelle est la compréhension ici de David? Où est-ce que je veux en venir? David est conscient des enjeux de la louange. Il est conscient que le culte rendu à Dieu dépasse le simple cadre de sa vie propre. C'est-à-dire que l'honneur de Dieu est en jeu ici. Ce n'est pas seulement le bien-être, le confort, la difficulté de David, mais c'est David, serviteur de Dieu, roi d'Israël qui représente Dieu, sous les regards des hommes, sous les regards des puissances étrangères, sous les regards des démons qui se cachent derrière les idoles. Et la question que se posent plusieurs, à quel point David est attaché à Dieu? À quel point David est déterminé à être fidèle à Dieu lorsque les ennemis l'entourent, lorsqu'il doit errer et être au milieu des Philistins, errer et être dans des peuplades étrangères qui adorent les idoles? Sera-t-il aussi courageux qu'il l'était en Israël, dans le confort, lorsqu'il adorait Dieu? Et David répond ici, « Je te célébrerai de tout mon cœur, je chanterai tes louanges, écoutez bien, devant les dieux. Je ne me cacherai pas. » Et donc, pour conclure ce deuxième point, que j'ai intitulé « Une compréhension équilibrée », nous devons réaliser que la question de la louange à Dieu, du culte à Dieu, dépasse ce qu'on réalise bien souvent. Il y a des enjeux spirituels bien plus grands. La gloire de Dieu est impliquée et concernée par la question de si nous rendons un culte à Dieu, si nous le louons même dans la détresse. Posez-vous la question et posons-nous la question. Voici deux rois. Lequel des deux sera le plus honoré? Est-ce celui qui a des serviteurs qui, lorsque le service de leur maître devient difficile, veulent à peine toucher du petit doigt ce service? Ou est-ce que c'est le roi qui a des serviteurs qui, même quand le service devient difficile et ingrat à nos yeux, à leurs yeux, disent « Mais c'est pour le maître » et se réjouissent d'une certaine manière avec Paul qui dit « Il vous a été fait la grâce non seulement de croire, mais encore de souffrir pour le Seigneur. Bon, » il est évident, n'est-ce pas, que le maître le plus honoré, c'est celui que les serviteurs sont prêts à servir, même dans l'adversité. Ayons donc une compréhension équilibrée, réalisons que dans nos détresses, il y a un enjeu qui nous dépasse. L'honneur de Dieu. Nous sommes regardés, nous sommes observés. Et nous sommes du coup soit une occasion de louange à Dieu, soit une occasion peut-être d'ombre sur les gloires et les perfections et la suffisance du Dieu que nous servons. Troisième et dernier point, et nous conclurons. La troisième clé, il me semble que le texte ici nous suggère pour louer Dieu même au sein de la détresse, c'est une appréciation renouvelée. Je serai un peu plus court ici, le temps est déjà bien avancé. Mais après avoir redit, si vous regardez avec moi au verset 2, sa résolution de rendre un culte fervent à Dieu, hein, il le montre par cette position, je me prosternerai, hein, ça montre la ferveur, vers le temple de ta sainteté, ce qui montre aussi la fidélité à la parole de Dieu. En contraste avec ces faux cultes, ces fausses religions qui rendent un culte qui dépend des fantaisies humaines et des inventions humaines, David dit « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté », autrement dit, conformément à ta loi, puisqu'il se souvient que c'est vers le tabernacle que se faisait la rencontre avec Dieu. Et donc, après avoir rappelé ça au verset 2, David nous montre un autre élément important pour chanter, même dans la détresse. Il se souvient qu'au cœur du culte rendu à Dieu se trouvent au moins deux attributs de Dieu, la bonté et la vérité. Ou on pourrait dire l'amour et la fidélité. La bonté et la fidélité de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il connaît par théorie simplement, mais il l'a expérimenté, il a vu comment ce que Dieu avait promis d'avance, il l'a accompli. Mais plus que ça, nous lisons « Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » Autrement dit, « Oh mon Dieu, j'ai entendu tes promesses et je les ai vues grandes lorsque je les ai entendues. Mais une fois que tu as accompli tes promesses de bonté, ta réputation a été encore surpassée. Tu as exalté ta parole, ta promesse, tu l'as élevée au-dessus de ton nom, c'est-à-dire de ta réputation. Ce que j'attendais de toi, tu l'as surpassé. » Verset 3. « Au jour que j'ai crié, » il explique donc à quoi il fait référence certainement, « au jour que j'ai crié, tu m'as répondu, tu as augmenté la force de mon âme. » Notons simplement ici que David s'arrête et se souvient. C'est ce que j'ai appelé donc une appréciation renouvelée. Il renouvelle son appréciation, sa reconnaissance, sa gratitude pour les bienfaits d'hier, les bienfaits d'avant-hier, les bienfaits de l'année dernière et des années en arrière. Il compte, comme nous le chantons, les bienfaits de Dieu. Et ainsi, il réalise que le nombre en est grand, en tout cas que l'ampleur en est grande. Et Dieu a agi, si vous notez avec moi la fin du verset 3, « Tu as augmenté la force de mon âme. » Autrement dit, Dieu a permis que David ne perde pas courage au jour de la détresse. Vous vous souvenez du proverbe de Salomon ? Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Et vous vous souvenez de ce que dit l'apôtre Paul ? Dieu prépare l'issue afin que nous puissions supporter. Et ici, David témoigne, tu as augmenté la force de mon âme. Tu m'as donné de pouvoir supporter. En conclusion donc, frères et sœurs, si nous sommes dans la détresse, si nous passons par la détresse, ne soyons pas surpris. C'est une évidence. La Bible en parle, ce n'est pas une faute de passer dans la détresse, c'est juste le lot de ce monde déchu. Mais c'est en plus la pédagogie de Dieu envers ses enfants. Tenons-nous prêts à déjouer les pièges de notre vieille nature, qui cherchera à faire de la détresse non pas une occasion de perfectionnement, non pas une occasion de sanctification, mais une occasion de chute. Comme David, sachons nous aussi que nous sommes libres en réalité, par la grâce de l'Évangile, libre de faire ce que nous voulons, bien que nous ne soyons pas encore libres de ne jamais faire ce que nous ne voulons pas faire. Pour le dire autrement, Dieu nous a donné une capacité nouvelle en Jésus-Christ, celle de dominer sur le péché, celle de ne pas laisser la détresse et l'adversité devenir une tentation. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dira cette phrase qui peut nous étonner, mais je crois qu'elle est précieuse. Il dit « Frère, considérez comme un sujet de joie complète lorsque vous êtes en butte à diverses épreuves. » C'est le même mot grec qui peut être traduit par « épreuve » ou « tentation ». Car il faut que l'épreuve produise son fruit, la patience. Et j'ai dit donc que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Or, que voulez-vous, chrétiens ? Que voulez-vous, frères et sœurs ? N'est-ce pas que le nom de notre Père Céleste soit sanctifié ? Que le nom du Christ soit connu et honoré ? que la puissance du Saint-Esprit soit admirée au travers de nos vies de louange, même au sein de la détresse? N'avons-nous pas une liste inépuisable? N'avez-vous pas une liste inépuisable de bienfaits dont Dieu vous a béni? N'a-t-il pas pardonné nos péchés jusqu'au dernier? N'a-t-il pas, une fois pour toutes, ôté notre condamnation, de sorte que nous pouvons dire « Je ne suis plus condamné, j'ai la paix avec Dieu pour l'éternité ». N'est-ce pas ce même Dieu qui vous appelle ses enfants, au point que Jean s'en étonne et dit « Voyez de quel amour Dieu nous a tant aimés pour que nous soyons appelés ses enfants ». Et nous le sommes. Oh, n'avons-nous pas en nous l'œuvre de l'Esprit-Saint par lequel nous crions « Père » sans avoir à rougir parce que nous savons que la grâce de Dieu nous a régénérés, nous a fait naître de nouveau et nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Alors chantons, chantons le matin quand tout est calme, chantons aussi le midi lorsque le soleil de l'épreuve est à son zénith, lorsque l'épreuve est au plus fort. Chantons encore la nuit lorsque la détresse nous voile l'horizon. Oh, chantons, car nous savons que nous sommes sauvés par la foi et non par la vue. Chantons enfin, car c'est notre langage. C'est notre langue commune avec les autres citoyens, nos concitoyens, les anges, qui chantent les louanges de Dieu. C'est le langage du ciel. Chantons car Jésus est mort et il est ressuscité. Il est monté à la droite divine, à la droite de la majesté divine, pardon, et il nous prépare une place et il revient. Et ces vérités restent aussi fermement vraies au sein de la détresse. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à chanter ses louanges lorsque l'épreuve viendra en 2024. Parce qu'elle viendra. Nul ne sait comment, ni quand, ni dans quelle intensité. Oh, mais glorifions Dieu par notre reconnaissance et notre louange. Et avec David, prenons la résolution renouvelée de le célébrer. Prions ensemble. Si quelques-uns veulent prier, et je terminerai.
Par la bienveillance, Seigneur, qui se le rappelle à nous. Seigneur, David n'aurait jamais pu te louer, t'adorer s'il n'aurait pas eu cette bienveillance. Lui qui, par moments, était loin de toi, dans le péché, tu l'as relevé, tu lui as pardonné. Et ainsi tu fais pour chacun de nous, Seigneur. Et j'aimerais aussi te remercier pour les moments d'épreuve que tu as permis dans ma vie durant cette année écoulée, qui nous permet de nous accrocher à toi, à l'essentiel. Et comme Calagan l'a rappelé, de marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, et merci parce que tu ne permets pas que ces épreuves dépassent nos forces. Mais au contraire, qu'on s'enracine toujours plus en toi et qu'on réalise que tout ce que nous avons se trouve en toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Amen. Amen.
Parce que tu as promis de rester à mes côtés, que ce soit la vallée que nous traversons, de changer aussi la vallée du cœur en source de joie. Je te remercie parce que dans cette année écoulée qui a été parfois difficile, en tout cas pour moi, tu es resté à mes côtés et tu m'as porté.
Amen.
Amen.
Et notre Dieu, ce n'est pas de la présomption de notre part lorsque nous parlons comme David et que nous affirmons « Je célébrerai encore l'Éternel, je louerai encore mon Dieu ». Ce n'est pas de la présomption ni de l'arrogance parce que nous savons que nous pouvons le dire à cause de ta grâce, à cause de ta grâce qui précède toujours nos œuvres les meilleures. C'est toi qui les as préparées, notre Dieu, afin que nous les pratiquions. Et nous voulons entrer dans ce que tu as préparé avec toujours plus de zèle, toujours plus de reconnaissance, de joie. Oh, béni, Père, s'il te plaît, chacun ici, et que nous puissions, à la lumière de ces vérités que tu as transmises par David jusqu'à nous, que nous puissions, Père, entrer dans cette année 2024 avec la résolution de te célébrer, de chanter tes louanges, lors même que nous serions entourés par des ennemis, par des maladies, des épreuves, des persécutions. Car tu ne changes pas, quand bien même nos circonstances diffèrent. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons te rendre la gloire qui t'est due, notre Dieu. Nous te disons ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Je pensais à deux chants, ça dit rien ou l'autre, mais je crois que ni l'un ni l'autre.